Vous écoutez France Culture.
C'est à la fin de cette semaine qu'à l'université de Lille 3 s'ouvre un grand colloque consacré aux droites radicales en France et en Grande-Bretagne tout au long du XXe siècle. Nous avons saisi cette occasion à la Fabrique de l'Histoire pour traiter de ce qu'on appelle la droite extrême, la droite radicale, l'extrême droite. On ne sait d'ailleurs pas très bien ce que ce terme recouvre. Et Zev Sternel, qui était notre invité d'hier, nous a aidé en tous les cas à expliquer comment avait pu naître justement cette droite radicale à la fin du XIXe siècle, même si les thèses qu'il a défendues, à savoir que la France aurait pu être un des foyers, sinon le foyer principal de naissance de ce qui plus tard allait s'appeler le fascisme, justement, est une thèse extrêmement controversée. Et on en a parlé avec lui hier et aujourd'hui nous allons nous rapprocher de nos années en évoquant un phénomène beaucoup plus récent. C'était en 1979. Valéry Giscard d'Estaing était au pouvoir. La gauche venait de perdre les élections législatives et se développe dans les colonnes du Monde une de ces querelles intellectuelles que connaît bien la France autour d'un nouveau mouvement idéologique, la nouvelle droite composée de gens qui, pour certains d'entre eux, sont anticommunistes en tous les cas, mais surtout anti-libéraux et quelques-uns anti-chrétiens. Des positions qui vont finir par embarrasser certains des membres de la droite traditionnelle. Nous en parlons dans ce documentaire de Catherine Guillardy et de Marie-Christine Clauset, avec les témoignages de Thierry Pfister, qui était journaliste au Monde à cette époque-là, de Jean-François Kahn, d'Alain de Benoît, de Jean-Yves Le Gallou, de Dominique Bussereau et des archives sonores de Louis Powels, 1979, l'été de la Nouvelle Droite.
Le 28 novembre 1977.
Radioscopie.
Alain de Benoît.
Jacques Chancel.
Mon désir est en quelque sorte de créer une nouvelle droite. La droite est restée très longtemps aveugle devant les développements des idées. Elle est restée muette également et par conséquent...
Elle est encore muette
et elle l'est toujours. Et je crois que l'une des grandes causes de son absence, c'est cette espèce de non-dit de son discours. Le fait qu'elle se situe perpétuellement sur le terrain de son adversaire, en quelque sorte, et qu'elle ne veut pas assumer des positions qui pourraient être les siennes.
Radioscopie.
Louis Powels.
Jacques Chancel.
16 juin 1980.
Vous êtes Louis Powels dans tous vos engagements. Prenons les journaux que vous dirigez. Bon, il y a le Figaro Magazine. Bon, il y a eu les grands sujets, et vous avez été le porte-parole de ces grands sujets.
Bien
vous parliez tout à l'heure de la Nouvelle Droite. Vous avez été, même si vous n'étiez pas de la Nouvelle Droite, celui qui a porté la Nouvelle Droite.
Bien sûr.
L'idée, au moins.
Bien sûr.
C'est-à-dire le brûlot.
Bien sûr.
Alors, vous le reconnaissez, cela.
Bien sûr. Bien sûr, mais je veux dire que j'aime à naviguer parmi les idées pas encore tout à fait cuites, parmi les recherches tout à fait nouvelles, m'avancer aux frontières, quoi. La Nouvelle Droite n'a jamais été ce qu'on en a dit. Elle est un rassemblement ou un club de philosophes et de qui recherche un certain nombre de choses. Elle n'est pas un engagement politique au sens politicien du terme. Mais je lui ai donné en effet la parole parce que j'ai cru que c'était intéressant dans le concert général des idées, dans la grande lessive des idées en cours.
L'été pluvieux de la Nouvelle Droite, où la campagne de presse de l'été 1979 menée contre de nouveaux doctrinaires aux vieilles idées.
13h, France Inter, au revoir.
Louis Powels, vous êtes le directeur du Figaro Magazine. Croyez-vous qu'il y ait une place pour un nouveau magazine, puisque tous les hebdomadaires maintenant sortent en fin de semaine?
Non, je crois qu'il y a une place pour un très important supplément de fin de semaine d'un quotidien.
Interactualité du 6 octobre 1978.
Nous apportons, à l'exemple de nos confrères anglo-saxons, un supplément, mais qui cette fois se présente sous la forme d'un très grand magazine pour un prix qui est à peine le double du numéro du quotidien.
Mais alors, une de vos grandes signatures, puisque vous faites, une publicité en quelque sorte, une démarche auprès de la clientèle, par de très grandes signatures. Justement, une d'entre elles, Jean Edernalier, estime qu'il n'y a plus de presse de droite ou de presse de gauche, et que le problème de la presse d'aujourd'hui est un problème de clientèle. Alors, votre clientèle, vous la situez comment?
Mais je n'ai pas à la situer. Ce sont les lecteurs du Figaro, et ce sont les lecteurs du Figaro du samedi qui, découvrant ce magazine, vont trouver un plus dans ce Figaro, Donc je pense que la clientèle du Figaro s'en trouvera augmentée. Voilà simplement comment je pose la question. Quant à Jean Edernalier, il fait partie d'une masse considérable de grandes signatures. Il fait partie des signatures jeunes que l'on trouvera dans le Figaro, à côté de signatures françaises et internationales extrêmement connues, célèbres depuis longtemps.
Alors, le numéro 1, demain.
Le numéro 1 paraît demain matin.
Demandez, demandez, le petit Parisien, demandez, demandez, l'Excelsior le matin. Les deux chefs de bande se cachent, c'est les Amanches et les Apaches, de la passion et de la mort.
Parmi ses jeunes talents, Louis Powels choisit également des membres du Grèce, un mouvement issu de groupuscules d'extrême droite, créé à Nice en 1968. Jean-Claude Vallat, Michel Marmin, Patrice de Planquette et surtout Alain de Benoist, qui publie en 1977, Vue de droite, une somme de 600 pages, sont pour Louis Powels les nouveaux visages d'une droite qui n'a pas honte de l'être. Le Grèce, ou groupe de recherche et d'études pour la civilisation européenne, se veut une société de pensée, à la conquête d'un terrain, celui des idées, dominé par la gauche marxiste depuis 1945. S'appuyant sur les analyses du théoricien marxiste Antonio Gramsci, les Gréciens mènent une stratégie qu'ils nomment « métapolitique ». Influencer la culture, agir sur l'opinion publique, c'est à terme influer sur le politique. Leur idée force développée dans leurs revues « Éléments » et « Nouvelle École » et dans les ouvrages publiés par leur maison d'édition, Copernic, créée en 1973, est présentée ainsi par Jean-Claude Vallat, secrétaire général du Grèce en 1979. L'ennemi, dit-il, ce sont toutes les doctrines, toutes les praxis qui représentent et incarnent une forme d'égalitarisme. La nouvelle droite est anti-marxiste, anti-chrétienne, anti-libérale et anti-égalitaire. Avec le Figaro Magazine et Louis Powels, le Grèce a trouvé une tribune de choix pour développer ses idées. Et il y a une place à prendre. La gauche intellectuelle est affaiblie par des critiques de plus en plus sévères en son sein. L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn est sorti au milieu des années 70. La droite, elle, se rajeunit et gagne avec la toute nouvelle UDF de Valéry Giscard d'Estaing. En juin 1979, elle vient de remporter les élections européennes avec Simone Veil, qui légalise l'avortement 4 ans plus tôt. C'est une droite à l'image moderne et déjà décomplexée à la recherche d'idées neuves. Inquiet du succès du supplément du Figaro, Jacques Fauvé, patron du Monde, demande en juin 1979 à Thierry Pfister, journaliste au service politique, de mener l'enquête sur cette nouvelle droite. L'article paraît le 22 juin en Une du Monde. Un titre choc, la nouvelle droite s'installe. L'auteur rappelle la virulente critique dans le dernier édito du Figaro Magazine contre la Marseillaise de Serge Gainsbourg. Louis Powels, écrit Pfister, réhabilite toute une vision de la civilisation européenne. Le Monde vient de lancer une campagne de presse qui durera tout l'été et aura des conséquences importantes pour les hommes qu'elle vise.
Le but était effectivement de montrer que l'équipe rédactionnelle du Figaro Magazine et de Louis Powels à l'époque véhiculait une idéologie, disons, masquée, qui n'apparaissait pas dans le débat public.
Thierry Pfister.
Qui n'apparaissait pas, y compris d'ailleurs parfois même au sein de la rédaction du Monde. C'est-à-dire que dans un premier temps, les thèses de la nouvelle droite ont pu être véhiculées par Alain de Benoist, etc., dans des ouvrages qui ont reçu un bon accueil critique, y compris dans les colonnes du Monde. J'ai le souvenir que Pierre Vianson-Ponté avait fait une critique très positive des publications d'Alain de Benoist parce que ça apparaissait comme des jeunes gens intelligents, brillants, modernes, voilà. Et qu'il fallait creuser un peu plus pour voir ce qu'il y avait derrière ce côté brillant et moderne. Celui avec lequel, dont je garde le souvenir le plus marquant, c'est Alain de Benoist, qui était quelqu'un d'intelligent, de très cultivé, connaissant tout de la droite et de la gauche, et n'ayant pas du tout une image sulfureuse, apporteur d'idées d'hommes politiques importants comme Michel Poniatowski, comme Griotret et d'autres. On était plutôt dans une relation de séduction et de leur part une volonté de séduction qu'un combat idéologique.
Radioscopie.
Louis Powell, Jacques Chancel, 20 février 1978.
Parfois, et je l'ai lu d'ailleurs, on vous dit l'idéologue de la nouvelle droite. Alors d'abord, l'idéologue, et ensuite, y a-t-il une nouvelle droite? Comme il y a de nouveaux philosophes, comme il y a de nouveaux gourous, comme il y a un nouveau monde.
Non, on va s'expliquer là-dessus. Je pense que la société libérale, dite abusivement d'ailleurs de droite, a négligé considérablement l'enseignement de Gramsci, et elle l'a ignoré. Et elle a laissé la culture, l'enseignement, les médias, les arts, à l'idéologie de la gauche qui les a investis. Je pense qu'il serait temps de préparer une contre-offensive et d'une contre-idéologie dans le domaine de la culture, des médias, etc. Alors, si vous appelez ça une nouvelle droite, c'est possible, mais elle ne se définit pas comme la droite traditionnelle qui était justement indifférente à la culture et qui disait, puisque nous avons le pouvoir économique, laissons donc la culture à qui la prendra.
Je m'étais lié d'amitié avec Louis Powells dans les années 70.
Alain de Benoît.
Et lorsque Louis Powells, qui dans le passé avait déjà participé à pas mal d'aventures de presse, s'est vu proposer, notamment par Robert Hersant, de prendre en main le secteur des idées dans le Figaro, il a d'abord créé un supplément de fin de semaine qui s'appelait le Figaro Dimanche. Et puis, il a décidé de le transformer en un véritable magazine, qui a été le Figaro Magazine. Le Figaro Magazine, des débuts, était assez différent, il faut bien le dire, du Figaro Magazine d'aujourd'hui. Louis Powells, je me souviens très bien de cette expression, voulait en faire une sorte de nouvel observateur de droite.
Ça vous fait rire.
Ça me fait rire, parce que très vite, le nouvel observateur de droite est devenu une sorte de Jour de France des beaux quartiers. Mais l'intention était bien celle-là, au début.
Qu'est-ce que ça voulait dire, être le nouvel observateur ?
Est un journal qui essayait de donner à la droite des idées, c'est-à-dire qui essayait de donner à une famille de pensée, ou plutôt à une famille politique qui avait généralement peu d'idées ou qui faisait profession de mépris des intellectuels, d'essayer de lui donner une conception du monde, une philosophie politique et toutes sortes de choses de ce type. Mais sous la houlette de Louis Powells et avec l'équipe que nous avions constituée auprès de lui, ça a été quand même un très grand succès de presse. Et c'est probablement parce que c'était un succès que cette campagne s'est déclenchée.
Vous avez un type, Alain de Benoît, il vit, je sais pas, à Versailles, je crois, non, il vit pas à Versailles, enfin, à l'époque, dans les espèces de, sous les combles, machin, c'est un espèce de type qui travaille 12 heures par jour, qui lit tout, enfin, vraiment, un espèce d'érudit, qui fait des fiches, qui, enfin, bon, et qui crée deux revues, d'ailleurs, deux, Éléments et l'école, bon, et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire, il y en a des centaines, des revues comme ça. Elles ont quelques centaines de lecteurs. Tout le monde s'en fout parce qu'en plus, c'est extrêmement intellectuel. C'est-à-dire, c'est pas à minute, c'est pas... Faut se prendre la tête, je veux dire, faut... C'est sur la pensée de Carl Schmitt, c'est sur... Et puis en plus, c'est pas clair, pour la raison que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une étude sur la pensée de Carl Schmitt, mais aussi certains aspects sur la philosophie de Kant, ou alors tout à coup, ils peuvent récupérer un héros de la Révolution française, c'est-à-dire... Dans l'optique française, droite, gauche, classique, bien lourde, on ne sait pas où il est. Donc voilà. Donc en vérité, personne ne sait même pas que ça existe, à part ceux qui et même ceux qui le reçoivent, parce qu'il en envoie beaucoup, ça ne comprennent rien. Bon, et ce n'est que l'arrivée au Figaro Magazine, la radicalisation du Figaro Magazine, c'est tout ça qui tout à coup donne une importance démesurée à Alain de Benoît et la gauche découvrant la spécificité de cette pensée, et en effet, certains aspects fascisants de cette pensée, parce que c'est vrai, c'est, tout à coup, elle-même amalgame en disant « ça prouve que la droite connaît une dérive fascisante ». Voilà, c'est ça le processus.
Ça, c'est clair.
Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite.
tu sais, il faudra faire encore des détours et voir passer des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre âme.
Le Nouvel Observateur publie le premier dossier à charge contre cette nouvelle droite. Dans cette tribune, écrivent Jean-Paul Enthoven et Mona Ozouf le 2 juillet 79, en parlant du Figaro magazine, s'exhale en effet l'haleine rance de l'animal qui s'est trop longtemps assoupi. En période de crise, reprend Le Monde quelques jours plus tard, quand l'horizon s'obscurcit soudain, ressurgissent plus aisément de vieilles idées qui se veulent des réponses neuves. Libération à son tour s'interroge. Nouvelle école ou vieux nazi? Libération consacre deux éditions à son enquête intitulée « Contre, tout contre la nouvelle droite ». Jean-François Kahn, qui dirige les Nouvelles littéraires cet été 1979, retrouve dans la nouvelle droite les mêmes méthodes que dans le stalinisme et constate dans un article du Matin « C'est moins la droite qui avance idéologiquement que le centre qui disparaît et la gauche qui recule ».
On est en 79. En 79, on est au lendemain d'une évolution qui, croyait-on,
Thierry Pfister,
devait conduire la gauche au pouvoir d'une manière naturelle, la gauche unie, la gauche du programme commun. Le programme commun est signé au début des années 70. En 74, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République face à François Mitterrand de quelques centaines de milliers de voix. Et François Mitterrand est convaincu que cet échec marque en fait sa victoire et la montée imparable de la gauche, puisque pour la première fois depuis pratiquement 1936, le Parti socialiste est passé devant le Parti communiste et donc ouvre à la gauche française la perspective d'un retour au pouvoir. Et ce retour au pouvoir doit se produire lors des législatives de 1978. Manque de chance, ça ne se produit pas. Ça ne se produit pas et la gauche entre en crise parce que le Parti communiste réalise qu'effectivement le Parti socialiste est passé devant lui, pratiquement d'un million de voix, et qu'on va rentrer dans ce qu'on a appelé le processus d'actualisation du programme commun, c'est-à-dire en fait de rupture de l'union de la gauche, et que ce qui paraissait inéluctable, et qui se produira malgré tout en 1981, tout d'un coup ne paraît plus inéluctable. Et qu'au contraire, on a une reconstitution d'un front de droite, et d'une droite qui se modernise, qui apparaît comme reconstituant son fondement intellectuel et idéologique dans la lignée de ce qu'est le giscardisme, par opposition au vieux fond de la droite qui domine en France depuis 1958, qui est le fond bonapartiste et gaulliste. Et c'est dans ce contexte idéologique que se produit le débat sur la nouvelle droite.
On m'a dit tes idées ne sont plus à la mode. Quand on veut gouverner, ce n'est pas si commode. Il faut évidemment s'adapter au terrain, mettre jour après jour un peu d'eau dans son vin.
Il y a un peu de bousculade ici, Gilbert Nonoyant, comme vous pouvez vous en douter. Beaucoup de monde et le siège du Parti Socialiste est assez exigu.
Je ne ferai une déclaration que si vous avez la gentillesse, de vous taire. Autrement, je ne la ferai pas, du moins pas ici.
France Inter, le 19 mars 1978.
François Mitterrand commence sa déclaration maintenant.
Au lendemain des élections législatives.
Mesdames et messieurs, notre pays avait choisi l'union de la gauche lors des dernières élections cantonales et municipales. Il est clair aujourd'hui que l'espoir que celle-ci portait s'est brisé le 22 septembre 1977 sur sa désunion. L'histoire jugera comme il convient.
Au fond, la gauche était habituée à n'avoir rien de solide idéologiquement face à elle.
Jean-François Kahn.
Depuis quelque temps. Elle l'avait eu 15 ans avant avec Raymond Aron et la pensée modérée. Hein. Et encore, ce n'est qu'après coup qu'on reconstitue une influence absolument considérable de Raymond Aron. C'était moins clair dans les années 60. Mais là, il y avait en effet une pensée face à elle. Mais à ce moment-là, un peu avant 81, On ne peut pas dire qu'il y avait vraiment un grand courant de pensée qui faisait pièce à l'hégémonie, la relative hégémonie de la pensée de gauche, que l'Observateur ou Le Monde représentait très bien. Et que tout à coup, voilà un journal qui, bien que ça soit pas un journal intellectuel, hein, mais qui intègre une pensée, ce journal diffuse de plus en plus, devient un phénomène de presse, du même coup cette pensée prend une importance considérable, donc elle est confrontée à quelque chose auquel elle n'était pas habituée, ça, donc ça joue aussi. La Nouvelle Droite, si elle peut s'exprimer, c'est que, encore une fois, la dénoncer comme fasciste, sur le moment, ne l'excommunie pas totalement, parce qu'on a tellement abusé de ce moyen terroriste de se débarrasser de la contradiction que c'est devenu non efficient. Vous comprenez? Un, il y a une pensée, elle est droite, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une pensée droite, et puis en plus, il y a une pensée, on en manque. Vous voyez? De pensée théorique, de pensée structurée et théorique. C'est une vision du monde, Alain de Benoist.
Voilà. Alain de Benoist présente son livre « Vue de droite » à Jacques Chancel, 28 novembre 1977.
Vous avez parlé de votre travail avec des hommes de gauche.
Oui, j'ai eu l'occasion. Vous me demandiez comment le livre a été accueilli. Il a été accueilli d'abord avec curiosité. Vous connaissez bien sûr, comme tout le monde, le mot de Guy Mollet, la France possède la droite la plus bête du monde. Je vous dois dire que dans une certaine mesure, c'est tout à fait exact. Et l'objet de ce livre, c'est justement que ces choses-là soient un peu amenées à changer. Il a été accueilli avec curiosité parce que l'association du mot « droite » et d'un gros livre de plus de 600 pages, qui était un livre d'idées, qui demandait, disons, que le lecteur fasse un petit effort, pas très grand, mais enfin quand même, pour rentrer dans l'ouvrage, pour rentrer dans le système de pensée, pour rentrer dans la vue du monde qui s'y exprimait, ça a beaucoup surpris. Il y avait un côté un petit peu provocateur dans le titre, je l'ai choisi très, très consciemment pour cela. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir non seulement des réactions favorables d'une clientèle naturelle de l'ouvrage, mais des réactions curieuses et de curiosité sympathique de la part d'hommes de gauche. Je dois dire que c'est une des choses qui peut-être m'a le plus touché. Un homme comme Jean-Pierre Chevènement, par exemple, porte-parole du CRS, m'écrivait il n'y a pas très longtemps, il est en train de naître une nouvelle droite comme il naît une nouvelle gauche, et c'est là-dessus que vont se situer les discussions futures. Je crois que c'est extrêmement important. Je crois fondamentalement que nous sommes sortis, il n'y a pas très longtemps, de l'après-guerre. Les problèmes entre 1945 et, disons, grosso modo, 1965, étaient des problèmes plus ou moins résiduels, c'est-à-dire que c'était des problèmes qui étaient impliqués par les événements de la guerre. Et puis depuis 65, 68 peut-être, et peut-être que les barricades de 68 ont marqué une césure, on est rentré dans une problématique tout à fait différente. Je suis convaincu que les lignes de force, les lignes de partage, les grands problèmes sur lesquels les hommes vont s'affronter dans les années 80 sont sans aucune mesure avec ce que l'on a vu au lendemain immédiat de la guerre et qu'il va nécessairement, en dehors de ce qui constitue aujourd'hui traditionnellement la droite et la gauche, se créer une nouvelle droite et se créer une nouvelle gauche.
Les journaux n'attaquent pas seulement Le Grèce et Alain de Benoist. Très vite, les regards se tournent vers le Club de l'Horloge, un autre club de réflexion créé en 1974 par de jeunes hauts fonctionnaires et des diplômés de grandes écoles. Certains membres ont appartenu aux Grèces ou à des groupuscules d'extrême droite. Ils partagent les mêmes idées sur le sociobiologisme, c'est-à-dire l'idée de hiérarchie entre les êtres humains selon des critères biologiques. Mais surtout, ils pratiquent l'entrisme dans les partis traditionnels de la droite. Yvan Blot, président du Club de l'Horloge, est chef de cabinet adjoint d'Alain Devaquet, secrétaire général du RPR. Il a été avant au cabinet de Michel Poniatowski, ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Jean-Yves Le Gallou, futur membre du Front National, appartient au cabinet d'Alain Griotré et au comité du PR, le Parti Républicain, principale composante de l'UDF. Plusieurs titres de presse en cet été 1979 affirment d'ailleurs que giscardisme et nouvelle droite ne font qu'un.
À l'époque, c'est la même chose parce que, non pas nécessairement que Giscard personnellement
Thierry Pfister
soit séduit par ça, mais Giscard cherche à élaborer un nouveau projet idéologique pour la droite française. Il se trouve que ceux qui lui apportent ce projet quasiment clé en main, derrière des hommes qui lui sont très proches, qui s'appellent Griotré, qui s'appellent Powells, qui s'appellent Poniatowski, eux font travailler ces équipes. Ces équipes de jeunes intellectuels brillants, cultivés et dynamiques. toute la droite ne peut, y compris la droite giscardienne, ne peut pas se résumer à la nouvelle droite. Mais il y a des échelons intermédiaires. Par exemple, le Club de l'Horloge. Le Club de l'Horloge puise idéologiquement dans la nouvelle droite, dans le Grèce, etc., mais refuse de reconnaître cette source et ne veut apparaître que comme un club de réflexion politique et giscardien. Et donc vous avez toutes les strates intermédiaires. Donc vous avez le Club de l'Horloge qui recycle idéologiquement, alors là, à mon avis, tout à fait consciemment, mais en l'habillant d'un discours politique qui soit acceptable et qui ne soit pas rebutant pour la société française. Et le cœur de la chaudière nucléaire, si vous voulez, c'est le Grèce, et eux ne souhaitent pas faire, parce qu'ils savent ce que le fond de leur idéologie peut provoquer comme réaction négative. Et puis il y a après des gens comme Alain de Benoît qui sont les metteurs en scène, les vulgarisateurs, et puis il y a les courroies de transmission vers le monde politique qui sont le Club de l'Horloge, par exemple. Vous avez les mêmes phénomènes d'entrisme avec le trotskisme, par exemple, au sein de la gauche. Je veux dire, vous avez toujours eu, que ça soit à l'extrême droite ou que ça soit à l'extrême gauche, des gens qui profitent du côté un peu ventre mou des grandes force politique, que ça soit la social-démocratie d'un côté, que ça soit le giscardisme de l'autre, pour leur vendre clé en main une idéologie. Et eux savent ce qu'ils font. Ceux qui achètent savent pas toujours ce qu'ils achètent.
La stratégie du Club de l'Horloge, c'est de faire passer des idées, de participer à la bataille des idées et de nourrir effectivement les formations politiques à partir des idées qui nous paraissent les bonnes. Voilà.
Jean-Yves Le Gallou.
Donc il y a véritablement la volonté d'un pont entre le monde des idées, le monde politique, avec ce qui nous apparaissait à l'époque comme un certain vide de la part des formations, entre guillemets, de droite, qui pouvaient être en l'occurrence le RPR ou le Parti républicain, qui nous semblait déjà attiré par un tropisme intellectuel de gauche, et nous voulions compenser en quelque sorte cela en apportant des idées qui venaient, c'est vrai, clairement de ce qu'on pourrait appeler la droite de l'échiquier politique.
La droite ou l'extrême droite ?
Assurément pas l'extrême droite. Nous qualifier d'ailleurs d'extrême droite est un contresens, je dirais, historique, parce que les gens du Club de l'Horloge, les fondateurs du Club de l'Horloge, les animateurs du Club de l'Horloge, aucun d'entre eux n'a eu à l'époque la moindre expérience d'extrême droite que ce soit. Et quand je relis dans le Nouvel Observateur qui a lancé la campagne qu'on avait manié la barre de fer dans des groupuscules, c'est totalement, totalement faux. Je le dis d'autant plus qu'après tout, j'aurais eu cette expérience, je le reconnaîtrais bien volontiers, puis ça ne serait jamais qu'une expérience diverse parmi d'autres, mais aucun d'entre nous l'avait eu, et nous qualifier d'extrême droite est un véritable contresens.
4 octobre, vous écoutez France Inter, il est 22h.
Interactualité, 27 juillet 1979.
La politique en vacances, ou presque, on notera pourtant les propos de Jean Le Canuel, président de l'UDF, qui participait pendant 2 jours aux travaux de l'université d'été organisée par les jeunes démocrates sociaux à Bastia, l'occasion pour le maire de Rouen de régler son compte à ce qu'il appelle la nouvelle droite.
Nouvelle droite, qui essaie d'établir une hiérarchie fondée sur de soi-disant bases scientifiques et biologiques de la société. Bref, il y a là des tonalités de racisme et une évocation des chemins qui, dans le passé, ont conduit à des dictatures. Et tous ces jeunes démocrates sont dressés contre cette idéologie surannée et qui n'est qu'une résurgence du nietzschéisme.
Vous êtes anti-marxiste et vous êtes nietzschéen.
28 novembre 1977.
Dans une certaine mesure, oui. Encore une fois, je ne suis pas un disciple de Nietzsche au sens strict. Je pense que c'est un homme qui a profondément marqué son époque, et plus encore peut-être la nôtre. André Malraux disait que le XXe siècle serait le siècle qui verrait l'affrontement décisif entre Nietzsche et Marx. Je crois que c'est là une phrase assez exacte.
Vous lui prenez quelle vertu à Nietzsche ?
je lui reconnais un mérite extraordinaire, qui est celui d'avoir été l'un des premiers à déceler clairement la nature des tendances égalisatrices, c'est-à-dire de l'idéologie égalitaire. Nietzsche a eu le grand mérite de mettre au jour la nature de l'égalitarisme et d'en faire la généalogie, en quelque sorte, à une époque où les choses étaient beaucoup plus confuses qu'à l'heure actuelle.
Dans l'Express fin juillet 79, Raymond Aron, qui a quitté le Figaro l'année précédente, écrit « Désormais, au Figaro, Jean d'Ormesson joue les amuseurs. Alain de Benoist représente la pensée. Je n'aime pas les hommes qui portent à la boutonnière, à titre de décoration, leur chiffre de QI. » La même semaine, le matin de Paris s'alarme. Une machine se met en place qui n'aura aucune difficulté à dévoyer les esprits tendres, trop enclins à écouter les vieux démons, même si ces derniers ont changé de visage et que leurs défenseurs tiennent en apparence un autre langage. Car la nouvelle droite est moderniste, elle fait appel aux apports les plus récents des disciplines scientifiques les plus sophistiquées. Alain de Benoist semble avoir lu et digéré toutes les avancées de la psychophysiologie ou de la biologie, de Jacques Monod par exemple, de l'éthologie, représentée par le prix Nobel Konrad Lorenz, ou même de la génétique.
On voit que l'intelligence a une composante génétique réelle, certaine, non pas sous la forme d'un déterminisme absolu, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de dire que le milieu ne peut pas jouer, mais sous la forme d'une prédisposition, d'une virtualité, d'une potentialité qui peut ou qui ne peut pas se mettre en œuvre. Bien.
Alain Benoist, Radioscopie, 1977.
Donc, en fonction de cette loi, des parents qui vont être plus intelligents que la moyenne auront également tendance à avoir des enfants plus intelligents que la moyenne. Mais, et c'est ce mec qui est très intéressant, avec une décote. C'est-à-dire que les enfants seront plus intelligents que la moyenne, mais plus proches néanmoins de la moyenne, et qu'à l'inverse, au plus bas de l'échelle, les parents qui ont une intelligence très inférieure à la moyenne auront aussi des enfants d'une intelligence plutôt inférieure à la moyenne, mais déjà moins inférieure que la leur. Alors si l'on projette cela sur plusieurs générations, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Bien que là aussi, il y a un chassé-croisé. Là aussi, il y a nécessité de la circulation des élites. Là aussi, il y a nécessité d'une société ouverte, d'une société complexe.
On appelait à l'époque la sociobiologie, on l'appelle aujourd'hui la psychologie évolutionnaire.
Alain Benoist.
C'est l'étude des caractéristiques comportementales humaines qui s'expliquent par des acquisitions d'adaptations positives au cours de l'évolution. C'est une discipline scientifique qui aujourd'hui est très dominante, notamment aux États-Unis, mais vis-à-vis de laquelle j'ai toujours eu un certain regard critique. Car mon sentiment profond, c'est que la biologie n'explique pas tout, que la sociologie ne peut pas se ramener à la zoologie. Je me souviens d'un entretien que j'avais eu en Autriche avec le prix Nobel Konrad Lorenz. Et Lorenz m'avait dit, si vous dites que l'homme est un animal, vous avez raison. Mais si vous dites que l'homme n'est qu'un animal, vous avez tort. Et je pense que cette formule, dans toute sa simplicité, résume assez bien la situation. Donc là aussi, c'est une thématique.
Et les hommes sont différents entre eux biologiquement ou pas ?
Ben, ils sont tous différents entre eux biologiquement, au sens où il y en a qui sont petits, d'autres qui sont, d'autres qui
oui,
sont
là,
grands, etc.
Vous parlez des caractères physiques, mais est-ce que aussi dans la capacité intellectuelle, il y a des différences entre les gens ?
Ben, il y a certainement des différences de capacité intellectuelle. Dans le langage courant, nous disons toujours qu'un tel est un crétin ou autre, n'est-ce pas ? Bon, il est assez clair que la plupart des prix Nobel ont des capacités intellectuelles que ni vous ni moi, et en tout cas pas moi, n'avons. Hein. Mais c'est une caractéristique parmi d'autres. Les gens que j'aime le plus au monde, auxquels je suis le plus attaché, ne sont pas forcément des génies ou les gens les plus intelligents. Mon échelle de dilection et de préférence n'est pas alignée sur des facteurs de ce type. Il est certain que toute chose égale par ailleurs, il est plus agréable d'avoir une conversation avec quelqu'un qui n'est pas totalement idiot qu'avec quelqu'un qui comprend rien. Mais par ailleurs, il y a tellement de qualités, de créativité, de cœur, de solidarité, de fidélité, de courage, de générosité qui s'inscrivent dans une personnalité que tout ramener à l'intelligence, c'est certainement une erreur que, pour ma part, je ne ferai pas, et je l'ai écrit à bien des reprises également.
Est-ce que vous étiez d'extrême droite à la fin des années 70?
Non, pas du tout. J'ai eu une période d'extrême droite dans ma toute première jeunesse, où j'ai participé à l'activité de la Fédération des étudiants nationalistes. J'étais à ce moment-là étudiant. C'était en 1961-62, et j'ai rompu radicalement avec ce milieu en 1966.
Pourquoi ?
Parce que j'avais le sentiment d'avoir répété des slogans, d'avoir dit beaucoup de bêtises, et que j'avais un souci intellectuel d'aller plus loin, de repartir en quelque sorte à zéro. C'est la raison pour laquelle, précisément, après quelques mois de réflexion, j'ai créé la revue Nouvelle École, qui a été un peu le moteur initial de ce qu'on a appelé par la suite la Nouvelle Droite.
Le 8 juillet 1979, Dominique Bussereau, jeune membre du bureau politique du Parti Républicain, publie avec Jean-Pierre Raffarin et Hubert Maigrat un communiqué pour dénoncer la Nouvelle Droite. Il nous parle aujourd'hui.
Nous, on a réagi quand on a vu que ces thèses-là commençaient à rentrer dans les têtes d'un certain nombre de responsables opérationnels. Ce n'étaient pas les gens de premier plan, c'était plutôt des apparatchiks, hein, des gens qui étaient au fonctionnement du parti. Quand on a vu que ce message de durcir le langage de la droite pouvait entraîner des dérives. Et, moi, ce qui m'a fait réagir, c'était la volonté d'entrisme. Hein. Après, je ne suis pas rentré dans toutes ces querelles idéologiques, etc. On ne voulait pas que part de l'extrême droite viennent entrer dans la droite traditionnelle que nous représentions.
J'essaie de comprendre comment ils étaient identifiés, comment saviez-vous, comment les identifiez-vous?
Parce que si vous voulez, c'était un peu par le Club de l'Horloge, enfin le Club de l'Horloge qui regroupait des gens de cabinets ministériels, etc. Par exemple, un garçon comme Bruno Maigret à l'époque était un horloger. Et nous, on voyait ces gens-là et on sentait qu'il y avait un réseau, aussi bien dans le RPR de l'époque que dans le Parti Républicain, qui était en train de se former. Et ça nous paraissait une dérive condamnable.
Et le fait qu'Alain Madelin et Gérard Longuet étaient membres d'Occident, qu'est-ce que vous en pensez?
Si vous voulez, c'était différent, parce qu'à l'époque, en 79, Alain Madelin avait été élu député UDF en 78 en Ille-et-Vilaine. Gérard Longuet avait été élu député UDF dans la Meuse. Donc c'était de jeunes députés qui avaient des espoirs de carrière ministérielle avec le président Giscard d'Estaing. Qui s'occupaient beaucoup à l'époque de s'implanter dans des endroits où ils avaient été élus tous les deux et qui n'étaient pas du tout, qui ne nous donnaient pas le sentiment d'être actifs dans ce genre de cercle. Moi, à l'époque, j'avais travaillé avec François Léotard au cabinet de Michel Poniatowski. François Léotard venait de la CFDT, hein, avait voté pour le président Mitterrand en 74 contre Giscard. Donc, si vous voulez, à l'époque, on était ce qui nous intéressait, c'était de construire l'UDF. Hein, c'était de se dire, on va s'élargir. Et on était en rivalité très claire entre l'UDF et le RPR. Vous savez, il y avait vraiment à l'époque deux droites. Il y avait une droite plutôt autoritaire, très centralisatrice par rapport au rôle de l'État, assez méfiante sur l'Europe, hein, qui était le RPR de l'époque. Hein, et puis une droite plus proche du centre, plus décentralisatrice, plus engagée dans l'Europe. Hein, c'était... À l'époque, l'Europe était vraiment le seuil de différenciation fort, hein, entre au sein de la droite et du centre. Et moi, ce que j'aimais pas non plus dans ces horlogers, c'est qu'on les trouvait des deux côtés et qu'il y avait là quelque chose qui me paraissait vouloir emmener l'ensemble sur une voie un peu droitière.
Jean-Yves Le Gallou.
La droite, enfin, je pense que c'est fondamentalement le fait de se sentir l'héritier, le continuateur d'une hérédité, d'un héritage, d'une culture, d'une civilisation.
N'importe quelle civilisation ?
La sienne, plutôt.
Oui, voilà. Mais pour vous, en ce qui vous concerne, c'est
l'héritage de la civilisation européenne. Moi, je suis pour l'héritage de la civilisation européenne. Ça ne veut pas dire, surtout pas, j'ai le moindre mépris pour la civilisation indienne, pour la civilisation chinoise ou pour la civilisation japonaise ou telle autre civilisation. Bien évidemment, non. Mais je me sens l'héritier de la civilisation européenne. Donc je suis plus sensible à ce qui peut venir de la Grèce ou du monde celtique que de ce qui peut venir d'ailleurs. Ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas d'intérêt pour ce qui vient d'ailleurs. Mais moi, je suis l'héritier de cela. Je considère que je suis un chaînon entre ceux qui m'ont précédé et ceux qui me suivront, et c'est ce que je souhaite contribuer à transmettre. Et ça, ça n'est pas du tout la moindre haine ou le moindre mépris pour ce qui est autre. C'est d'abord assumer ce que l'on est et faire en sorte de devenir ce que l'on est, suivant une formule de Louis Poels.
Radioscopie de Louis Poels, 16 juin 1980.
Je crois que si nous voulons faire l'Europe dont je parlais tout à l'heure, il est bon d'en dégager la civilisation particulière. Il est bon que nous nous sentions européens avant de nous sentir américains, par exemple, ou généralement cosmopolites, informes. Où il est bon que l'Europe vive autrement que dans la crainte d'un empire et la colonisation par un autre. Mais pour se sentir européen, encore faut-il se sentir très enraciné, connaître l'histoire de cette culture, et savoir que l'Europe, elle a sa grandeur justement par la diversité de ses enracinements, de ses formes culturelles. Vous devez bien me comprendre, vous qui êtes suffisamment enraciné dans une région et dans un sol.
Très profondément.
Oui. Je crois que toutes ces recherches-là sont très importantes.
Ça me paraît très intéressant et très important. Je crois que tout ce qui va dans le sens de l'enracinement, tout ce qui va dans le sens d'une claire perception de notre identité, de ce dont nous provenons et par conséquent de là où nous allons, a aujourd'hui une très grande importance.
J'ai cru comprendre, Alain Benoît, que peu importe les résultats des élections de 1978, peu importe que ce soit la gauche qui gagne, que la majorité reste...
Je ne dis pas que ça n'a aucune importance. Je dis que ça ne résoudra pas nécessairement les véritables problèmes.
Mais vous voterez pour qui ?
Une certaine nuance.
Vous qui avez écrit « Vue de droite » et qui vous dites « homme de droite » ou « homme à droite ».
Je ne sais pas encore.
Vous voterez ?
Je voterai certainement.
Merci Alain Benoît.
En vérité, on a été piégés.
Jean-François Kahn.
C'est Alain Benoît lui-même, en publiant son livre « Vue de droite », naturellement, il estampille lui-même sa pensée comme de droite. Et comme Poels, quand même, voit bien que ce n'est pas une droite comme d'habitude, du coup, on l'étiquette « Nouvelle droite ». Mais la droite classique n'avait pas plus que la gauche n'avait vu la spécificité radicale de cette pensée-là. Voilà. D'abord, ils ont fait une assimilation avec Le Pen. Pas que Le Pen, qui n'était pas, qui avait encore pas pris l'ampleur que ça prendra par la suite, mais bon, c'était là. Et donc, ils ont fait une assimilation avec l'extrême droite classique, réactionnaire et contre-révolutionnaire, souvent intégriste, etc. Mais si on revient aux sources du fascisme, non, le fascisme, c'est quelque chose de radicalement différent. Ce n'est pas simplement quelque chose que situe à la droite de la droite. La preuve, c'est que, par exemple, Alain de Benoît est un des rares Français à avoir lu, connaître l'origine d'une partie nazie, qui est les frères Strasser, bon, qui sont les créateurs du Parti National-Socialiste, qui sont donc les créateurs de ce mouvement qui va déboucher sur le fascisme européen. Or, ils vont finir à gauche. Ils vont d'ailleurs être exterminés, tués. Enfin, l'un va être tué par Hitler, l'autre, je ne sais plus comment, je crois que d'ailleurs que l'autre aussi finit par être rejoint et tué par Hitler, il faudrait vérifier. Et si vous voulez, c'est des gens qui prenaient au sérieux le mot socialiste dans national-socialiste et qui, en effet, vont rompre avec le nazisme quand le nazisme va se rallier à une politique libérale et être soutenu par le patronat. Donc il y a cette spécificité-là. La phalange, qui est dans ce mouvement espagnol, de la même façon, va prendre à une époque... ses distances avec Franco, et il y a toute une partie de la phalange qui vont prendre Che Guevara comme idole. Moi, j'ai vu des locaux de la phalange où il y avait le portrait de Che Guevara. Il y a une fraction du fasciste italien, que Mussolini va également exclure, qui, lui-même venant du socialiste, qui va également scissionner sur le thème, mais non, nous sommes anticapitalistes, etc. Or, la pensée d'Alain de Benoît, elle est dans cette mouvance-là.
Si je regarde également mon propre itinéraire, je dirais qu'aujourd'hui, je me reconnais autant d'idées de gauche que de droite, certainement.
Qu'est-ce qui fait que tout à coup ça s'est écroulé, au fond ? C'est que ça a marché tant qu'on a vraiment pensé que c'était une pensée de droite. Une pensée de droite différente, une pensée de droite qui ose, une pensée de droite marginale, une pensée de droite théorique. Ça a marché à droite. Mais au sens large, peu à peu, quand la droite s'est aperçue qu'en vérité, ce n'était pas exactement une pensée droite, que c'était plus complexe, que c'était, elle était anti-religieuse, qu'elle elle était en libéral, anti-libérale, qu'elle dénonçait certaines inégalités, même si elle condamnait l'égalitarisme à côté. C'est quand elle s'est aperçue de ça que tout à coup elle s'est affolée. Et quand elle l'a compris, ça s'est effondré. En fait.
D'accord, donc ça n'est pas la campagne de presse des journaux, disons, de gauche qui a tué la nouvelle droite.
Pas du tout. Ce qui a tué la nouvelle droite, c'est quand la droite s'est aperçue que c'était pas une nouvelle droite, mais que c'était quelque chose d'absolument différent, qui n'avait rien à voir, et qui, quelque part, était attentatoire à tout ce qu'elle pensait. C'est pas une pensée réactionnaire, c'est pas une pensée contre-révolutionnaire, c'est même plutôt une pensée révolutionnaire, d'ailleurs, par certains côtés. Et quand la droite, avec du... s'en est aperçu, tout à coup, au moment où Powell s'en est aperçu et a largué Alain Benoît, c'est bien simple, et l'a viré du Figaro Magazine, la droite, tout à coup, s'est aperçu qu'il y avait eu un quiproquo, quoi. C'est ça qui s'est passé.
Powell, comme je l'ai dit, était soumis à un certain nombre de pressions.
Alain de Benoît.
Et il a commencé à se défaire de tel ou tel de ses collaborateurs pour lâcher du lest, si je peux employer cette expression familière. Bien, il y a eu Grégory Ponce, il y a eu Michel Marmin, quelques autres comme cela, puis je crois Jean-Claude Vallat à un certain moment, d'autres également. Bon, évidemment, personnellement, j'ai été victime d'une sorte de marginalisation ou d'ostracisme. Je vais vous donner un exemple simple, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la victimologie. Mais jusque vers 1980, je n'ai jamais proposé un livre à un éditeur. Ce sont les éditeurs qui sont venus me demander des livres, et c'était des éditeurs non négligeables. J'ai publié des livres chez Albin Michel, chez Plon, à la Table Ronde, chez Robert Laffont, etc. Bien. À partir du milieu des années 80, ce n'est plus le cas. Alors, c'est jamais un silence complet, bien entendu, mais il y a effectivement une évolution. J'ajouterai que, bien entendu, à partir de cette époque, je ne dispose plus, personnellement, d'une tribune dans la grande presse. Or, évidemment, quand vous ne disposez plus d'une tribune dans la grande presse, c'est comme si on vous coupait le haut-parleur.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne disposiez plus de cette tribune?
Ah, mais ça, je n'en sais rien, ce qui s'est passé.
Non, mais enfin, concrètement, on vous a demandé de quitter le Figaro Magazine. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ce qui s'est passé, c'est l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1980. Personnellement, j'ai trouvé ça plutôt amusant. Ça me paraissait d'ailleurs assez logique, parce que je trouvais que la droite était vraiment épuisée. Et Powell, lui, a été saisi d'une grande crainte, d'une grande inquiétude. C'était quasiment les chars russes qui défilaient place de la Concorde. J'exagère à peine. Et... À ce moment-là, Louis Powell s'est brutalement droitisé. Il est devenu libéral en économie, ce qu'il n'était pas auparavant, ce que je n'ai jamais été. Par ailleurs, il s'exerçait dans le monde de la presse et surtout de la publicité un certain nombre de pressions sur Powell, mais également sur Robert Hersant, pour qu'il se débarrasse de ces jeunes gens un petit peu voyants, un petit peu marqués, qui lui nuisaient, etc. Bon, et les rapports avec Powell se sont distendus. J'ajoute que, bizarrement, Powell s'est converti au christianisme, ou du moins a déclaré qu'il s'était converti au christianisme. Comme je n'étais pas du tout chrétien, ce n'était pas non plus ma tasse de thé. Donc, nos routes ont de plus divergé. Je me sentais, moi, plutôt en accord avec la critique sociale de gauche. Et Powell, lui, en tenait plutôt pour les... pour les thèses des nouveaux libéraux, des libertariens, etc. Voilà. Donc j'ai eu un petit strapontin qui était une rubrique de vidéos Figaro Magazine, essentiellement alimentaire, qui a pris fin vers 1992.
La campagne de presse de 1979 contre la nouvelle droite s'achève avec l'été. Écarté du Figaro Magazine, Alain de Benoît et son mouvement ont aussi bénéficié de cette publicité. Mais le Grèce n'a pas vocation à se constituer en parti politique et la nouvelle droite sera progressivement oubliée, ressurgissant dans les médias au gré de l'actualité, comme en octobre 1980 lors de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic. Ou en 1994, quand le chercheur Pierre-André Taguieff lui consacre un livre et se retrouve accusé de sympathie pour son objet d'étude. En 1995, ce petit air est diffusé sur les ondes.
Un petit QI, un gros bunker.
C'est là ?
Nouvelle droite.
Fouet d'un fouet à fou.
Mais le danger pour la démocratie venait-il vraiment d'Alain de Benoist et de sa nouvelle droite? Aucun article de l'été 79 n'avait mentionné Jean-Marie Le Pen et son Front National, qui existe déjà, et dont le score électoral quelques années plus tard défiera toute prévision. Dans les années 80, plusieurs membres du Club de l'Horloge, qui n'ont pas été inquiétés par la campagne de presse de 79, rentreront au Front National. Le mouvement leur doit sa politique de préférence nationale contre l'immigration et sa conception élitiste de l'éducation. Si l'amalgame entre la nouvelle droite et les groupes d'action est souvent fait à tort en 79, il ne faut pas diminuer l'importance des idéologues. Thierry Pfister.
On a sans doute exagéré, comme dans tout phénomène de campagne de presse, parce que la gauche est à la recherche de nouveaux terrains de combat, parce que il y a une concurrence médiatique nouvelle. J'ai contribué à lancer sans le vouloir, mais bon, après, je suis pas responsable de la suite de la campagne. Mais on est effectivement dans une lutte pour le pouvoir qui va aboutir en 81 à une modification radicale des équilibres politiques de la société française. Il faut aussi l'analyser en ces termes.
Donc il y a amalgame ou pas entre cette droite, cette extrême droite qui se veut penseur, c'est-à-dire, et cette extrême droite qui, elle, est une extrême droite d'action, comme des groupes comme Occident qui ont été...
Bien sûr qu'il y a amalgame, mais vous savez, derrière les porteurs de matraque ou de manches de pioche, quel que soit leur groupuscule, il y a des intellectuels, il y a des idéologies, et il est toujours bon de savoir au nom de quelles valeurs certains êtres plus frustres manient les manches de pioche.
Amour sacré de la patrie, conduit, soutient son bras vengeur. Liberté, père déchéri, combat avec tes défenseurs.
L'été pluvieux de la nouvelle droite, ou la campagne de presse de l'été 1979 contre de nouveaux doctrinaires aux vieilles idées. Prise de son Bernard Quentin, Georges Thau et Martin Delafosse. Mixage Jean-Michel Bernot. Archives Amélie Marcet et Marie Jarose de Lina. Un documentaire de Catherine Ghiliardi et Marie-Christine Closet.
Nous évoquerons justement dans cette histoire de la droite extrême la comparaison possible entre la France et la Grande-Bretagne avec des chercheurs venant d'un côté et de l'autre de la Manche. Si vous voulez réagir à cette émission que vous venez d'écouter, à toutes les autres, donc vous pouvez téléphoner au 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, écrire à la pièce 61 23 de la Maison de Radio France, 75 220 Paris Sedex 16, ou encore aller sur notre site internet www.franceculture.com, rubrique les émissions, la fabrique de l'histoire.